franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Les grands fonds océaniques sont-ils le nouvel Eldorado de l'humanité? C'est aujourd'hui à la une de la science.
Les scientifiques sont confrontés à un problème inhabituel. Ils ne travaillent pas assez vite comparé au rythme de découverte de ces nouveaux êtres vivants.
Dans les grands fonds, on pense qu'il y aurait entre 1 million et 100 millions d'espèces inconnues. On connaît que 240 000 espèces. Le milieu profond océanique, c'est 2/3 de la surface du globe. Et pour l'instant, on a visité avec des sous-marins à peu près la surface de la ville de Paris.
Et depuis moins de 5 ans, les moyens techniques permettant d'explorer, mais aussi d'exploiter les ressources enfouies au fond des océans se sont développés et la compétition économique est déjà bien engagée. Bonjour Pierre-Marie Saradin.
Bonjour.
Vous êtes chimiste et co-auteur pour l'IFREMER d'une publication appelant justement un véritable effort dans la recherche océanographique des eaux profondes. Et puis pour en discuter, Hervé Kempf est également avec nous pour reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors justement, quels sont les indices Hervé montrant que la course aux grands fonds est lancée?
Eh bien, par exemple, en décembre, vous n'êtes pas sans savoir que le Xiangong-Ong...
Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, c'est un vaisseau de recherche chinois avec 200 marins et chercheurs à bord et équipé aussi de deux submersibles inhabités, le Qianlong numéro 1 et le Qianlong numéro 2, qui a entamé une expédition scientifique dans le sud-ouest de l'océan Indien pour chercher quoi? Des minéraux enfouis dans les fonds marins, précisément à plus de 2000 mètres de profondeur. Deuxième signe aussi, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la compagnie canadienne prépare le projet Solwara d'extraction en profondeur, à nouveau à plusieurs milliers de mètres de profondeur, de cuivre, de zinc et d'or avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis plus globalement, vous vous rappelez peut-être, ou vous ne savez pas parce que je l'ai découvert comme vous ce matin, que en septembre dernier, la France a étendu son plateau continental de plus de 500 000 km². Et puis plus globalement, tout ça s'inscrit dans un mouvement général que l'Autorité internationale des fonds marins, fondée en 1994 dans le cadre de l'ONU, essaye tant bien que mal de réguler, mais en fait, cette autorité a délivré dans les 4 dernières années 19 permis d'exploration de ces fonds marins.
Donc c'est le grand boom.
Pierre-Marie Saradin, quelles sont ces ressources tant prisées qu'on trouve dans les abysses?
Alors on peut classer ces ressources en 4 catégories. La plus ancienne serait d'ailleurs la plus connue de tous, c'est les poissons. On sait que une grande partie des poissons qui arrivent dans nos assiettes actuellement vont être pêchés de plus en plus profondément. La deuxième ressource, c'est ce qu'on appelle les ressources minérales marines. C'est, comme vous l'avez dit, tous les minéraux qu'on va trouver soit autour des nodules dont on a parlé il y a une trentaine d'années déjà, soit autour des sulfures hydrothermales, soit autour des encroûtements cobaltifères. Ensuite, on a également tout ce qui est pétrole et gaz. On s'aperçoit que les compagnies pétrolières actuellement vont chercher de la ressource de plus en plus profondément. Donc actuellement, je crois que les forages d'exploration vont se situer aux alentours de 3000 ou 4000 mètres. Et enfin, on a tout ce qu'on va appeler la technologie bleue. C'est toutes les nouvelles molécules que vont pouvoir nous apporter les habitants du milieu marin.
Donc on sait que ces ressources sont là, mais est-ce qu'on connaît bien les milieux où elles se trouvent?
Alors C'est une des grandes questions qu'on va nous poser. Effectivement, on sait que ces ressources sont ici. Par contre, comme vous avez pu entendre tout à l'heure en début d'émission, Daniel Desbruyères, il y a 5 ans, qui était mon prédécesseur ici d'ailleurs, on ne connaît pas le fonctionnement des fonds marins. On connaît à peine les habitants qui y vivent. Donc Daniel Desbruyères avait dit qu'on connaissait à peu près 250 000 espèces des fonds marins. On n'a pas énormément évolué. Mais par contre, l'hypothèse sur le nombre d'espèces potentielles à découvrir encore, et je ne parle pas du tout de tout ce qui est micro-organismes, je parle simplement des organismes de grande taille. Cette hypothèse se situe entre 1 million et 10 millions d'espèces à découvrir.
On connaît mieux le système solaire finalement, André Braic, hein, quasiment que les fonds marins. Hein.
On connaît peu de choses aussi bien sur la Terre que sur les fonds marins. Je crois qu'il faut continuer.
Qu'est-ce qu'un nodule, s'il vous plaît? Tout à l'heure, vous en parliez dans votre intervention, Pierre-Marie Saradin.
Alors, un nodule, c'est simplement une espèce de petit caillou qui va avoir quelques centimètres de diamètre, qui va se former avec des échelles de temps géologiques, dont c'est quelques millimètres par milliers, voire dizaines de milliers d'années. Mmh. Et ce nodule va être très très enrichi en métaux qu'on va appeler stratégiques ou métaux qui vont être utilisés dans nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Et ces métaux, ça va être du cobalt, du cuivre, du nickel, du manganèse, des terres rares.
Hervé Kempf, vous nous le disiez, les autorisations minières commencent à être délivrées. Il faut s'en inquiéter d'une certaine manière?
En tout cas, il y a un certain nombre d'ONG et de scientifiques qui s'en préoccupent, surtout dans des pays anglo-saxons. Il y a ainsi une campagne qui a été lancée, la Deep Sea Mining Campaign, la campagne contre les mines en mer profonde, et qui a publié un rapport avec des scientifiques, des écologistes, en disant « ça n'est pas normal, on lance ces explorations et ces exploitations alors que l'impact environnemental possible n'est pas du tout connu ». Cette campagne s'indigne en termes mesurés, mais proteste contre le fait que l'autorité internationale des fonds marins délivre des permis d'exploration sans que les méthodes d'analyse environnementale soient précisément mises au point.
Vous faites partie des scientifiques inquiets, Pierre-Marie Saradin ?
Alors, inquiet peut-être un petit peu, mais surtout impliqué, on va dire, puisque les thématiques de recherche qui vont être abordées correspondent exactement au travail qu'on va faire ici à l'IFREMER. Et ce qui nous inquiète un tout petit peu, et ce sur quoi on va essayer d'être très très vigilant, c'est que justement, on connaît à peine la biodiversité et le fonctionnement de ces écosystèmes marins, on connaît à peine leur fonctionnement, donc on a encore beaucoup beaucoup de mal à trouver des méthodes qui permettront d'évaluer l'impact de cette exploitation potentielle.
On a souvent parlé dans l'émission de la pêche en eau profonde, c'est une source d'inquiétude particulière pour vous, Pierre-Marie Saradin ?
Alors la pêche en eau profonde, on s'occupe de ça depuis quelques années déjà, et on s'aperçoit effectivement que le chalutage profond va avoir des impacts assez importants sur les coraux d'eau froide notamment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toute la communauté des pêcheurs a pris ce problème à bras-le-corps et qu'on s'aperçoit qu'on va commencer à avoir, par exemple, dans le cadre de la directive cadre sur la stratégie du milieu marin en Europe, des processus de conservation de ces écosystèmes. Les coraux froids sont considérés comme écosystèmes marins vulnérables à surveiller particulièrement.
On a souvent parlé des formes de vie extrêmes qui vivent au fond des océans. Est-ce que le mot extrême ne va pas à l'encontre de leur préservation au final ?
Alors, tout d'abord, juste une petite anecdote sur le mot extrême. Ce mot extrême est utilisé par rapport à notre approche anthropocentrée, si on peut dire. Ces organismes qui peuvent vivre, par exemple, pour des micro-organismes jusqu'à 120 degrés. On a trouvé des formes de vie de micro-organismes dans des carottes de plus de 1600 mètres en dessous du fond océanique. Ces conditions, pour eux ou pour ces organismes, ne sont pas du tout extrêmes. Par contre, ces conditions sont difficiles parce qu'elles nous empêche de pouvoir les étudier de manière facile.
Hervé Kempf.
Est-ce que y a pas un petit problème pour la position de l'IFREMER, parce qu'à la fois vous dites il faut faire des recherches, il faut vraiment étudier l'écologie, mais en même temps l'IFREMER est dans un groupe de travail au niveau administratif français avec des sociétés privées comme Technip et d'autres qui disent ouvertement on veut aller vers l'exploration. Est-ce que l'IFREMER est pas là dans une position les fesses entre deux chaises?
Oui, on peut le dire carrément.
Alors c'est un problème, c'est une question qu'on pose très 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 régulièrement. Effectivement, si on reprend également le titre de l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et on essaye de se situer, même si je suis un petit peu d'accord avec vous, on essaye de se situer dans une position durable. Alors pour ce qui concerne les grands fonds notamment, on est dans une position actuellement où l'exploitation n'a pas commencé, et notre position actuelle, c'est de faire du lobbying, d'essayer d'avoir du financement pour pouvoir continuer à travailler, à connaître ces écosystèmes pour avancer dans la connaissance de l'impact de cette exploitation. Effectivement, de toute façon, à partir du moment où on se situe d'un côté sur l'évaluation de la ressource, de l'autre côté sur l'évaluation de l'impact, on peut se poser cette question.
Merci beaucoup Pierre-Marie Saradin. Je rappelle que vous êtes chimiste et donc co-auteur pour l'IFREMER d'une publication qui appelle à un effort quand même sur la recherche océanographique en eau profonde. Merci beaucoup Hervé Kempf. Dossier qu'on peut retrouver sur le site reporter.net, comme d'habitude bien sûr. Et à lundi prochain. À demain Axel.
Au revoir Mathieu.
Merci beaucoup. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'espace de stockage de notre cerveau serait 10 fois plus important que prévu. Pour mesurer la capacité de mémoire d'un cerveau humain, les chercheurs étudient le nombre et le changement de taille des différents synapses de l'hippocampe. Jusqu'alors, 3 tailles de synapses étaient connues, mais des chercheurs californiens, dans une nouvelle estimation publiée récemment, en dénombrent 26. Avec ces nouvelles données, nos capacités de mémoire moyenne passeraient de 2500 téraoctets à plus d'un pétaoctet, de quoi concurrencer les plus gros disques durs du moment. Le nombre de rhinocéros tués en Afrique du Sud a baissé pour la première fois en 8 ans. Selon l'ONG Trafic, ils auraient été 1175 à être tués en 2015, soit une baisse de 3,3%. Même si ces chiffres peuvent difficilement être une source d'autosatisfaction, commente l'ONG, cette légère baisse montre que les actions difficiles à mener sur le terrain peuvent avoir un impact et doivent être renforcées. Chassé pour ses cornes, vendu 60 000 euros le kilo sur le marché noir, 2015 restera la pire année en termes de rhinocéros braconnés depuis plusieurs décennies. Et puis pour finir, des chats de Bengale aux côtés des hommes, il y a 3500 ans en Chine, une découverte faite par une équipe française sur des ossements découverts en 2001. Après des recoupements génétiques, les chercheurs montrent que la domestication du chat, qui s'est produite en plusieurs endroits du monde simultanément, est toujours liée à l'émergence de l'agriculture et que ce rapprochement est certainement dû à la présence de nombreux rongeurs autour des réserves de céréales. Les premières traces de domestication de chats remontent à 7000 ans avant Jésus-Christ et elles ont été trouvées à Chypre.